et appels sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient comme tous les jours. RFI vous propose de commenter l'actualité et ce matin, nous attendons vos réactions sur le projet d'accord de paix au Mali. Ces derniers jours, plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Kidal dans le Nord contre ce document qui, selon elles, ne répond pas à leurs revendications. Il faut dire que le texte ne parle ni d'autonomie, ni de fédéralisme. Du coup, ces populations poussent les groupes rebelles à ne pas signer l'accord. Des groupes rebelles qui sont donc pris en tenaille avec d'un côté leur base qui est donc vent debout contre ce document, et de l'autre, la communauté internationale qui fait pression pour paraffer cet accord de paix. Alors comment sortir de l'impasse? Comment créer les conditions d'une paix durable au Mali? On en parle dans une trentaine de minutes, vous êtes nombreux au standard. Beaucoup de réactions également sur la page Facebook de l'émission, 33 9 693 693 70, 09 693 693 70, si vous nous appelez de France. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction des RFI, toutes vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité, mieux comprendre tous les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. Sonia Rollet du service Afrique est déjà à mes côtés. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Une question concernant la brouille entre les autorités de Kinshasa et la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Franklin nous appelle du Maroc. Bonjour Franklin.
Bonjour Johan.
Vous nous appelez de Beni Mellal, hein, c'est au centre du Maroc. Quelles sont vos questions?
Actuellement, les relations entre la MONUSCO et la force armée congolaise sont crispées. À ce sujet, j'ai des questions qui me restent un petit peu perplexes. Premièrement, quelles sont les raisons de blocage de cette relation entre la MONUSCO et l'armée congolaise? Et enfin, quelles sont les conséquences de cette mésentente sur la poursuite des mandats de MONUSCO et sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo?
Sonia Rollet, c'est vrai que la semaine dernière, en conférence de presse, Martin Kubler, qui est le chef de la MONUSCO, a reconnu que les relations entre le gouvernement congolais et l'ONU étaient tendues. On peut le dire, ce n'est un secret pour personne, les relations ont toujours été tendues entre Kinshasa et la MONUSCO.
Bah oui, il faut comprendre déjà ce qu'est le mandat de la MONUSCO aujourd'hui. En fait, depuis 2006 et la fin de la transition en République démocratique du Congo, le gouvernement congolais est censé être le principal responsable de la sécurité sur son territoire. L'État est considéré comme légitime puisqu'il y a eu des élections. Et donc la MONUSCO s'est retrouvée à devoir non plus faire la paix, mais consolider la paix. Et ce changement de vocabulaire implique que le gouvernement congolais et donc l'armée congolaise n'est plus considéré comme un groupe armé comme un autre en RDC, mais comme un partenaire pour la MONUSCO. Et en même temps, on lui donne l'obligation de protéger les civils, ce qui reste sa mission principale. Et en protégeant les civils, ils doivent donc évaluer, disons, la situation en termes de droits de l'homme. Et là, effectivement, on se retrouve dans une situation où 2006, le temps a passé et on est toujours à un ratio selon la division des droits de l'homme de la MONUSCO qui fait ce recensement sur les violations de droits de l'homme dans le pays, que l'armée congolaise reste finalement à 50%, et la police aussi congolaise reste à 50% responsable des violations des droits de l'homme dans le pays. Donc évidemment, c'est pas facile comme relation entre les deux. Ils sont censés collaborer, en même temps, ils sont censés critiquer aussi d'une certaine manière, en tout cas sur ce volet droits de l'homme. À cela s'ajoute une autre obligation pour la MONUSCO, qui est celle qui nous préoccupe aujourd'hui, qui est le fait qu'ils ont de plus en plus, en tout cas l'obligation, de vérifier s'ils ne collaborent pas avec des troupes ou avec des organes qui puissent commettre des violations des droits de l'homme. Donc en apportant un soutien, et d'ailleurs c'est pas valable que pour la MONUSCO, hein, c'est valable à travers le monde, c'est-à-dire qu'il y a une due diligence policy, il y a une politique en termes de droits de l'homme qui fait que les Nations Unies, ces agences, ces missions, doivent faire attention à qui elles apportent le soutien. Or, elles sont censées soutenir l'armée congolaise, mais dans l'armée congolaise, il y a des gens qui sont ces généraux que la MONUSCO estime être sur la liste rouge, c'est-à-dire ayant commis des violations des droits de l'homme par le passé et étant susceptibles d'en commettre à l'avenir.
Deux généraux qui ont été nommés à la tête de l'opération contre les rebelles des FDLR dans l'est du pays. Et ce que demande la MONUSCO, c'est de retirer ces deux généraux.
Oui, et puis ça se fait en fait sur une base assez régulière. Là, on l'a vu dans le dernier rapport du secrétaire général des Nations Unies. C'est la première fois peut-être qu'ils en parlent de manière aussi publique dans un rapport du secrétaire général. Mais il n'y en a pas seulement deux, il y en a sept en fait. Tout récemment, sur un peu plus de 100, 124 ou 126, qui sont, voilà, avec lesquels la MONUSCO ne peut pas collaborer en raison de leur passif sur les droits de l'homme. Alors évidemment, pour le gouvernement congolais, il y a deux problèmes à ce que la MONUSCO dise ça, et surtout dise ça publiquement, c'est qu'ils estiment que ça mine l'armée congolaise qui est en opération militaire contre les FDLR, qui a peut-être d'autres intentions par rapport à ça, puisque eux-mêmes ont décidé, donc après cette déclaration publique de la MONUSCO, de ne plus accepter le soutien de la MONUSCO sur les FDLR. Donc voilà, qu'il y aurait peut-être une volonté, en communiquant beaucoup là-dessus, de se venger, c'est ce que disait un peu le ministre de la Communication. Mais c'est vrai que c'est un problème, c'est-à-dire pour la MONUSCO de se retrouver d'un seul coup sur une opération aussi sensible, parce qu'il y a eu des violations des droits de l'homme assez massives contre les populations qui vivent, en tout cas avec les FDLR en 2009 et 2010. Ils doivent s'assurer cette fois, c'est ce qu'on leur a demandé, de faire une opération la plus propre possible, et donc la nomination de ces deux généraux était forcément perçue comme un signal.
Alors à Kinshasa, les autorités dénoncent un chantage. Kabila, on l'a vu, a renoncé au soutien des Nations Unies donc pour mener cette offensive armée contre les FDLR. Franklin nous demandait à juste titre quelles peuvent être les conséquences de cette brouille finalement sur la situation sécuritaire dans l'Est, si tout d'un coup les casques bleus ne sont plus mis à contribution pour garantir cette sécurité.
Alors les casques bleus sont mis à contribution, de toute façon c'est leur mandat de protéger, donc ils ne pourront pas y échapper non plus complètement, ça concerne essentiellement les opérations contre les FDLR et pas avec les autres groupes armés. On voit des opérations contre les ADF qui sont avec la MONUSCO et les FRDC.
Un mouvement rebelle ougandais.
Voilà, mouvement rebelle ougandais, plutôt dans le grand nord d'Or Kivu, près de la frontière avec l'Ouganda. Bon, là, ils collaborent. Mm-hmm. C'est sur les FDLR qu'il y a une crispation, d'abord parce que l'ONU disait le gouvernement congolais n'a pas envie d'y aller parce qu'il y a des complicités locales, ce qui a agacé le gouvernement. Et le gouvernement a dit, bon, puisque c'est comme ça, on y va tout seul. Et qu'il y a encore une méfiance de la part de la MONUSCO ou de l'ONU ou de la communauté internationale par rapport à ces opérations, par rapport au fait qu'il pourrait ne pas y avoir les résultats espérés, donc pas forcément la volonté derrière, mais surtout ce qu'ils craignent, c'est les violations des droits de l'homme justement, c'est-à-dire des déplacements massifs de la population avec pas de monitoring, pas de contrôle de la manière dont ces populations vont se déplacer et de se retrouver dans des opérations du même type que 2009-2010. Donc ils se devaient d'être vigilants. Et en même temps, ils se coupent un peu une herbe sur le pied parce que la communauté internationale veut ces opérations contre les FDLR et veut des opérations contre les FDLR les plus propres possibles.
Merci beaucoup Sonia d'être venue nous éclairer sur la situation complexe, il faut dire, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Franklin, merci d'écouter RFI au centre du Maroc. On vous souhaite évidemment une bonne journée. 9h18 à Paris, ce sont vos questions sur l'actualité. 33 9 693 693 70. On va parler football et on va revenir sur la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Bonjour Draman.
Bonjour Van Rouy.
Vous avez surtout une question concernant Laurent Blanc, l'entraîneur.
Oui. Ouais. La semaine dernière, le PSG a éliminé le Chelsea en Ligue des Champions. Ma question est de savoir quels sont les atouts de Laurent Blanc pour la progression de l'équipe parisienne.
Les atouts de Laurent Blanc pour faire progresser le PSG. Christophe Jousset du service des sports est à mes côtés. Bonjour Christophe.
Bonjour Juan.
Belle revanche en tout cas, la semaine dernière pour le PSG, oui. Qui l'année dernière avait été éliminé par Chelsea. Alors incontestablement, la qualification de la semaine dernière face à Chelsea est l'une des plus belles victoires de Laurent Blanc en tant qu'entraîneur du PSG. Depuis qu'il est au PSG, donc depuis maintenant 2 ans, beaucoup de voix ont quand même critiqué Laurent Blanc, disant qu'il n'avait pas l'étoffe pour entraîner le PSG. Là, apparemment, il a des atouts.
Déjà, il était parti, si vous vous souvenez de l'histoire, avec un lourd handicap, puisqu'il était très clair qu'il était loin d'être le premier choix, ni même le deuxième, ni même le troisième. Laurent Blanc, il avait été nommé un petit peu par défaut. Et donc, il partait déjà avec un handicap au début de cette course. Et puis, c'est vrai que cette, non pas victoire, parce qu'ils n'ont pas gagné, mais élimination élimination aux dépens de Chelsea, fait franchir au club parisien un cap. De là à en faire un grand club européen, il y a encore quelques étapes à franchir pour être comparable au Real Madrid, au Bayern Munich, au FC Barcelone, à ces gens-là, qui eux sont des vrais grands clubs européens. Mais en tout cas, Blanc a démontré qu'il était capable de faire face à ce genre de situation. Le plus beau dans cette qualification parisienne, le plus impressionnant, c'est qu'elle a été acquise à 10 contre 11. Ouais. Voilà, l'adversité était vraiment énorme. Et le PSG a su la gérer. Blanc, surtout, a su faire faire des choix. Chelsea a ouvert la marque à la 81e minute. Dans la minute suivante, Blanc a fait a commandé deux remplacements qui sont pas évidents parce qu'il a fait sortir Verratti et Matuidi qui sont des poumons de cette équipe parisienne. Il a fait rentrer Lavezzi, il a fait rentrer Rabiot. C'est un pari et c'est un pari qui a fonctionné puisque l'équipe parisienne a égalisé avant d'être, vous vous souvenez, une fois encore menée au score sur un penalty et d'arracher la qualification dans la prolongation. Donc grâce à une tête de Thiago Silva.
Il a su réorganiser l'équipe.
C'est un petit peu les choix de Laurent Blanc sont disséqués en permanence parce que voilà, il est sur la scène européenne, la scène la plus exposée, la compétition la plus prestigieuse, et la question c'est de savoir s'il est au niveau, parce que tout le monde sait que Laurent Blanc c'est un grand joueur, un ancien grand joueur qui a joué en Italie, en Espagne, en France, en Angleterre, il a fait une très belle carrière, champion du monde avec les Bleus, mais comme entraîneur, il n'a pas encore tout à fait ses preuves. Alors ça, c'est un grand point qu'il a marqué et surtout comme entraîneur, il n'imposait pas encore, d'après ce qu'on pouvait lire, entendre dans les commentaires, le respect à ses joueurs qui sont des stars. Aujourd'hui, il gère une équipe de stars.
C'est vrai qu'il y a des rumeurs qui disent que certains joueurs au PSG ne s'entendent pas vraiment avec Laurent Blanc.
Voilà. Est-ce que on a même entendu dire, est-ce que le PSG a vraiment besoin d'un entraîneur quelle est l'influence, sous-entendu, il n'en a presque aucune, de Laurent Blanc. Mais ce qu'on a vu au coup de sifflet final, c'est une étreinte. Plus qu'une accolade, une étreinte entre David Luiz, le défenseur central brésilien, et Laurent Blanc. C'était comme un remerciement et comme aussi une marque de respect. Donc vous voyez, quand on ajoute à ça, par exemple, la déclaration de Pastore, qui est un autre grand joueur et très cher, joueur de cette équipe du PSG, et qui disait, on a fait exactement le match que Laurent Blanc nous avait demandé. Vous voyez que petit à petit, ça se construit. Bon, ça ne remet pas en cause fondamentalement les questions qui vont continuer de se poser sur son avenir, parce que il n'est pas évident qu'il aille au-delà de la saison qui est en cours.
Donc malgré cette qualification, il n'a pas forcément sauvé sa tête aujourd'hui.
Les Qatariens veulent gagner la Ligue des Champions. Ils sont arrivés en disant on veut gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Pour l'instant, le PSG n'est qu'en quart de finale. Et il y était déjà il y a 2 ans. Donc il faut continuer et franchir encore des étapes.
Merci beaucoup, Christophe.
De rien.
Bonne journée, Draman. Merci de nous avoir appelés. 33 9 693 693 70. Dans 20 minutes maintenant, notre débat sur le Mali et ce projet d'accord de paix qui tarde à être paraffé par les deux parties, puisque l'accord a été paraffé il y a maintenant 2 semaines par le gouvernement, mais toujours pas par la coordination des mouvements de la Zawad, qui d'ailleurs demande une nouvelle rencontre avec les médiateurs internationaux. Le CMA voudrait encore faire quelques modifications sur ce texte, notamment concernant la question d'autonomie. 33 9 693 693 70. Et justement, nous avons plusieurs questions sur le Mali. Avec nous, Serge Daniel, l'un des correspondants d'RFI à Bamako. Bonjour Serge.
Juan, bonjour et bienvenue à Bamako.
Merci de nous accueillir dans la capitale malienne. Alala Tikou est également avec nous de Bamako. Bonjour.
Ouais, bonjour Laurent.
Bienvenue, on vous écoute. Quelle est votre question?
Ok, bon Laurent, moi mes questions sont basées sur l'actualité malienne de la semaine dernière. Concernant la découverte du camp d'entraînement des djihadistes à côté de Bamako et les attentats qui ont eu lieu dans les 3 villes différentes du pays.
Oui.
Et si ma première question est la suivante, quelles sont les informations qu'on a sur ce camp et où se situe le camp?
Alors,
la seconde,
oui. Oui, allez-y, la seconde question.
La seconde, oui. Est-ce qu'il y a un lien entre les camps qui a été découvert par l'armée et l'attentat de Bamako?
Alors, on va déjà répondre, excusez-moi, on va déjà répondre, si vous permettez, à ces deux questions. Serge Daniel, bonne question de notre auditeur, puisque c'est vrai, on a annoncé sur notre antenne la découverte, quelques jours après l'attentat meurtrier de Bamako, d'un camp d'entraînement dans la périphérie de Bamako, sans pour autant préciser où se trouvait ce camp. Est-ce que vous avez des informations, Serge?
Oui, le camp découvert se trouve dans un village. Le village s'appelle Samanko. Attention, Samanko, différent de Bamako. Et Samanko est à quelques dizaines de kilomètres au sud-est de la capitale, au sud-ouest de la capitale malienne. C'est un village qui est situé entre les monts Mandingue et le fleuve Djoliba, c'est-à-dire le fleuve Niger. Alors, quasiment dans un champ, un jour, un informateur découvre quelques dizaines de personnes, des armes également, des munitions, et des personnes qui s'entraînaient. À un moment, on a pensé qu'il s'agissait de militaires maliens, des bérets rouges, qui ont un camp dans la zone de Samanko. Alors, ce n'était pas le cas, surtout que certaines personnes étaient en Turbané. L'information est rapidement donnée, mais disons-le, d'après nos informations, les forces de sécurité du Mali semblent avoir mis du temps à réagir. Donc, entre-temps, les personnes qui étaient dans ce camp-là ont disparu, mais on a retrouvé du matériel sur place.
Oui, du gros matériel, hein, des kalachnikovs, des grenades, une importante quantité de munitions, des bombes artisanales. À qui appartenait ce camp ?
Alors, on ne sait pas exactement à quel groupe appartenait ce camp. À un groupe de djihadistes autoproclamés, très probablement des temps ici. Mais de sources proches de l'enquête, on affirme également avoir retrouvé sur place des tracts de propagande qui indiquent que les hommes armés qui s'y trouvaient pourrait bien être de la katiba des Mourabitoun. Vous savez, cette katiba est un groupe de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar qui a fusionné avec le Mouzaou, le mouvement pour l'unité, le djihad en Afrique de l'Ouest. Alors c'est d'ailleurs ce groupe, Ouane, qui a revendiqué l'attaque survenue dans un bar-restaurant de Bamako, vous le savez, où il y a eu 5 morts, et parmi les décédés, il y a un ressortissant français.
Voilà, l'Algérien, donc Mokhtar Belmokhtar, qui a revendiqué cet attentat. Alatikou, vous avez une autre question justement sur ces revendications?
Oui, voilà, comme l'attentat de Bamako a été revendiqué par les éléments de Mokhtar, maintenant j'aimerais savoir quels sont les groupes soupçonnés d'être les responsables des attentats de Gao et Kidal.
Oui, des attaques, et notamment celle de Kidal, qui n'a toujours pas été revendiquée, Serge Daniel. Sait-on qui se cache derrière ?
Alors, voilà comment ça se passe. Généralement, à Kidal, vous voyez, Kidal est par exemple loin de la ville, si vous voulez. Lorsqu'il y a un attentat, ce n'est pas facile pour les groupes islamistes de revendiquer tout de suite l'attentat parce qu'il faut pouvoir communiquer. Ils ont peur de téléphoner parce que les Français de l'opération Barkhane sont sur place, ils écoutent, donc on peut les atteindre. Donc, il faut envoyer un communiqué généralement par la Mauritanie, donc c'est compliqué. Mais dans cette région de Kidal, au nord-est du Mali, les groupes djihadistes autoproclamés qui règnent sur place, il y a Al-Qaïda au Maghreb islamique, de l'Algérien Yahya Abou Hammam, et puis il y a en Sardine de Yadar Ali qui est un Malien. Alors voilà les groupes qui agissent généralement dans la région de Kidal, sans oublier, Wan, qu'il y a quand même une passerelle entre tous les groupes. Maintenant, dans le cas de Gao, on veut parler de l'explosion qu'il y a eu à Gao récemment. Là aussi, il n'y a pas eu de revendication, mais Gao, généralement à Gao, c'est le Mouzaou, le mouvement pour l'unicité, le djihad en Afrique de l'Ouest, qui intervient. Lorsque les groupes agissent, ils revendiquent, ils peuvent communiquer à la presse notamment, mais qu'ils ne peuvent pas communiquer à la presse, ce qu'ils font, c'est qu'ils attendent une semaine, deux semaines, et dès qu'ils ont l'occasion, ils font un bilan des différentes attaques qu'ils ont menées entre-temps.
Alors peut-être que ces attaques seront un jour revendiquées. Dernière question sur le Mali, on va parler du processus de paix, de l'accord, projet d'accord de paix. Bonjour Lassana.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
On vous écoute avec Serge Daniel.
Ok, justement, suite à par rapport à ces négociations, j'ai une question. Quelles sont en fait les types de pressions que le Conseil de sécurité et l'ensemble de la communauté internationale peuvent exercer sur les gens du CMA et les alliés?
Alors, la communauté internationale qui fait pression effectivement sur la coordination des mouvements de la ZAWAD, la CMA, pour qu'elle signe ce projet d'accord de paix, on parle de pression, mais concrètement, ça signifie quoi, Serge Daniel ?
Ouais, alors si la question est de savoir si en termes de pression, il y a par exemple interdiction de voyage, donc de circuler, gel de compte, la réponse est non. On n'en est pas du tout là. Et les premières pressions ont eu lieu par des communiqués. On a vu des pays comme la France, l'Union européenne, l'ONU, dans des communiqués rendus publics. Tous ces pays ou institutions ont demandé aux rebelles de parafer le document. Alors, autre type de pression, c'est qu'il est possible actuellement qu'une délégation de diplomates accrédités à Bamako se rende rapidement à Kidal. C'est une possibilité. Et là, ces diplomates devraient convaincre sur place les acteurs de signer l'accord. Et enfin, il y a d'autres démarches en cours. Vous savez que les alliances tribales jouent un rôle très important dans le monde Touareg, surtout dans la région de Kidal, et des médiateurs sont en train de faire de la diplomatie, permettez l'expression, à l'ancienne actuellement, pour amener les gens à signer. Donc pression diplomatique, mais il n'y a pas de pression du genre interdiction de circuler, gel de compte.
Ouais. On en parlera d'ailleurs dans 10 minutes maintenant avec les auditeurs d'RFI, ce sera notre débat du jour. Merci Serge Daniel, l'un des correspondants d'RFI à Bamako. Restez avec nous, tout de suite le journal.